Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi, le Parlement congolais devrait faire le contrôle de l'exécutif national sans complaisance pour le pousser à relever les défis dans tous les domaines, selon la sénatrice Francine Muyumba. Le député national Jean-Baptiste Kasekwa pense pour sa part que la priorité de l'actuelle session parlementaire doit porter sur l'évaluation des opérations militaires. Présentation hier à Kisangani de 27 présumés criminels tombés dans le filet de la police. Ces malfrats sont ceux qui sèment terreur et désolation dans les différents quartiers de la ville. Notre invité, c'est le chef d'antenne du PDDRCS à Beni au Nord Kivu, Omar Kavota, parle de la préparation du désarmement des miliciens qui ont adhéré récemment au processus de paix. Il s'agit des Maïmaï basés à Kalunguta, une zone en proie aux attaques des rebelles ougandais de l'ADF. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Parlement devrait effectuer son travail de contrôle de l'exécutif sans complaisance pour pousser le gouvernement à relever les défis économiques, politiques et sécuritaires. C'est en tout cas ce qu'affirme la sénatrice Francine Muyumba. Pour sa part, le député national Jean-Baptiste Kasekwa pense que la priorité de l'actuelle session parlementaire doit porter sur l'évaluation des opérations militaires au Nord Kivu en Ituri. Et dans le Maïndombé. Un reportage de Michel Kifindangoy.
D'après l'élu du Nord Kivu, l'examen du retrait de la RDC de l'EAC ainsi que l'évaluation des opérations des forces armées devraient être les deux priorités principales pour cette session. Jean-Baptiste Muindo Kasweka.
La priorité des priorités de cette session consiste d'abord à faire une évaluation sans complaisance des raisons pour lesquelles les FARDC ont abandonné successivement plusieurs agglomérations au médium 23. La deuxième priorité, c'est voter une résolution qui ordonne de l'EAC le retrait de notre pays.
Pour la sénatrice Francine Muyumba, le Parlement ne devrait pas se laisser caporaliser. Il doit donc jouer un rôle efficace de contrôle pour faire face à la crise sécuritaire, mais aussi économique et sociale. Francine Muyumba.
Oui, et comme vous le savez, le produit des premières nécessités ont vu le prix doubler, si pas tripler, sur l'ensemble du territoire national. À Lubumbashi, je me trouve actuellement, je ne peux que vous dire qu'un sac de farine de maïs est passé de 28 000 francs à 70 000 francs.
Il reste donc aux deux bureaux des deux chambres du Parlement de proposer un calendrier des matières qui tiendra compte des différentes priorités des élus.
Merci Michel Kifindangoy. Le gouverneur du Nord Kivu reprend la conduite des opérations militaires dans sa province. Le lieutenant général Constant Dima a été notifié hier par le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Tshiwewe. Pour mémoire, le 12 juillet 2022, le général Constant Dima s'était vu retirer ses fonctions au profit de l'ancien commandant de la 3e zone de défense, le général Philemon Yave, qui a été ensuite remplacé par le lieutenant général Marcel Machita. La nouvelle disposition certifie l'arrêté du 28 novembre 2022 du ministre de la Défense nationale qui réhabilitait le gouverneur dans ses attributions. Nord Kivu encore. 14e jour d'accalmie ce jeudi dans les zones de combat entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Selon des sources locales, un retour timide des déplacés est constaté dans certains villages de la zone. Ces sources déplorent cependant des tracasseries, la perception illégale des taxes et l'arrestation des civils accusés d'avoir collaboré étroitement avec les rebelles du M23 pendant leur brève retrait. Il y a aussi le pillage de petits bétails dans l'agglomération de Mouesso. Ces pillages attribués à certains miliciens interviennent après le retrait des miliciens du M23 dimanche soir. Et puis la société civile du territoire de Beni dénonce les attaques menées par des rebelles ougandais de l'ADF contre les habitants de la région. Des attaques qui ont coûté la vie à une centaine des personnes et fait d'importants dégâts matériels en une semaine. Le premier vice-président de la société civile met le gouvernement central devant ses responsabilités. Richard Kirimba est au micro d'André Kitenge.
La situation sécuritaire, elle est dégradante de plus en plus en territoire de Beni et ça préoccupe tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans cela? C'est qu'il y a de sérieux problèmes. Et à constater l'attention des autorités à porter sur la guerre d'M23, nous demandons à ce qu'une attention qui mérite soit aussi accordée à la situation du territoire de Beni. Parce qu'actuellement, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est plus grave qu'hier. Et aujourd'hui, plus grave qu'il y a autant d'années, ce qui se passe dans le territoire de Beni. Alors, nous méritons aussi cette attention. On a vu le gouvernement congolais s'est mobilisé pour la guerre d'M23. Nous réclamons l'attention nationale sur la situation de Beni. Autre chose que nous demandons, c'est quoi? C'est que la population a toujours demandé l'élargissement des opérations conjointes. Troisième élément que nous demandons, c'est la démobilisation ou alors la délocalisation des miliciens Maïmaï, il faut les citer comme ça, qui se trouvent dans les Bachou. Et que comme il n'y a pas l'autorité de l'État dans la plupart de ces villages, ce sont des Maïmaï qui règnent à maître, bien qu'ils soient dans les processus de démobilisation, mais la démobilisation à soi est restée dans les rêves du gouvernement. La pratique, il n'y en a pas.
5 rebelles ougandais de l'EDF ont été tués hier mercredi lors d'une opération conjointe entre les FRDC et l'UPDF dans la zone de Tchabi située à environ 160 km au sud de la ville de Bounia. Le porte-parole de ces opérations militaires conjointes affirme que 8 rebelles qui voulaient migrer de l'est vers l'ouest de la zone sont tombés dans une embuscade. Le lieutenant-colonel Mac Azoukai précise qu'aucun civil n'a été tué. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
L'ennemi, comme vous le savez, a tendance à migrer vers l'ouest. Et hier, il y avait un petit groupe de 8, un groupe de 8 éléments terroristes qui voulaient traverser nos lignes. Et ils sont tombés dans l'embuscade tendue par les forces de la coalition. On a neutralisé 5 et on a récupéré également 4 âmes. Il y a 3 qui ont échappé à l'embuscade et nous sommes en train de les rechercher. Nous sommes en train de travailler grâce au soutien de la population, comme je l'ai dit. On va demander à la population de doubler vigilance et de nous faire confiance, de nous donner des informations sur le mouvement de l'ennemi. Un seul terroriste vivant est une menace. Il ne peut pas garantir la sécurité à 100%, mais au moins, grâce à la population, le travail se fait bien. Allez sur le terrain, vous vivrez ce que nous sommes en train de faire. Il y a encore beaucoup à faire, mais au moins, les gens sincères peuvent témoigner du travail qui est en train de se faire dans la zone.
La situation humanitaire dans la province de l'Ituri mérite d'autres alternatives afin d'assister au plus vite les milliers de déplacés qui sont dans les besoins. C'est ce que affirme le représentant adjoint en charge de la protection du HCR après avoir visité les sites des déplacés de Bounia et de Ro dans les territoires de Djougou. Lors des entretiens qu'il a eus avec les autorités provinciales et le comité des déplacés, Pierre Atchom a mis l'accent sur la nécessité qu'il y a de relever les défis de la baisse de ressources financières dues aux multiples crises à travers le monde et aux nombreux foyers de tension en RDC. À Bounia, la correspondance de Jean-Claude Lokidile.
Cette visite des responsables de différentes agences du système des Nations Unies, à laquelle s'enjoint un représentant des bailleurs de fonds, vise à attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la crise qui affecte la province de l'Ituri. Pierre Atchom, adjoint au représentant en charge de la protection au HCR, pense que l'heure est venue pour mettre en place un mécanisme pour que les déplacés se prennent en charge. Cela pourrait, explique-t-il, résoudre les difficultés liées à la réduction de l'aide qui affecte de nombreuses familles de personnes déplacées.
Nous avons écouté les déplacés. Nous nous sommes rendus également compte qu'ils sont tous désœuvrés. Donc vous comprenez que dans ces conditions-là, humainement, c'est inacceptable. Donc vous comprenez qu'on ne peut partir là qu'avec beaucoup de peine. Et c'est justement pour cela que nous avons commencé cette réflexion en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ce changement-là que nous sommes en train de rechercher. Et c'est justement pour ça que vendredi, les collègues d'ici vont s'asseoir. Donc il faut qu'on écoute ceux qui sont ici, qui peuvent nous dire voici une autre orientation que vous avez faite.
Ces déplacés disent attendre le rétablissement de la sécurité dans leurs entités pour retourner chez eux et reprendre leurs diverses activités d'avant les conflits. Le HCR salue les initiatives locales pilotées par le gouvernement provincial qui vise à ramener les communautés locales à dialoguer pour amener la paix durable dans l'Ituri qui compte à ce jour plus d'1 600 000 déplacés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi dans la Tchopo, le commissaire provincial de la police nationale a présenté hier, mercredi après-midi, au gouverneur 27 présumés criminels qui ont été arrêtés à Kisangani. Ces malfrats sont impliqués dans beaucoup de cas de braquage dans la ville de Kisangani, d'où nous appelle Jacques Mukonkole.
Parmi les 27 présumés bandits yamais armés figurent 3 militaires FRDC et une femme. Un grand bandit très réputé, surnommé Django ne pardonne pas, fait également partie de ces supposés criminels. Pour le commissaire provincial de la police, le général Patrick Sabiti Abdallah, ces malfrats sont ceux qui sèment la terreur et désolation dans différents quartiers des communes urbaines de Kisangani. Ils sont donc responsables de plusieurs faits infractionnels, notamment vol à main armée, association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et extorsion. Se félicitant de ces jolis coups de filet réalisés par les forces de sécurité, le vice-gouverneur des provinces pense que les multiples réunions organisées par les comités provinciaux de sécurité ont porté leurs fruits. Des stratégies seront multipliées afin que la paix règne dans la ville de Kisangani, a souligné Paulin Lendongolia. Signalons que tous ces supposés criminels ont été mis à la disposition de l'auditorat militaire pour la poursuite de la procédure. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Même son des cloches au Kwilu où 26 nouveaux assaillants arrêtés par la police nationale dans le secteur de Wamba ont été présentés hier mercredi au gouverneur avant d'être mis à la disposition de l'auditorat militaire. La police nationale affirme que ces malfrats menaçaient dangereusement les déplacés qui tentent de retourner dans leur village. À Bandundouville, Irène Mboma.
Ces présumés criminels présentés mercredi à Bandundu sont au nombre de 26, répartis en deux groupes. Le premier est composé de 17 personnes arrêtées par la police à Fatundu et le second est constitué de 9 criminels qui ont été arrêtés à Kikongo dans les territoires de Bagata. À l'occasion, plusieurs effets saisis par la police auprès de ces derniers ont aussi été présentés. Il s'agit entre autres de 10 armes de marque calibre 12, des machettes et de plusieurs autres biens de valeur volés. Les sources de la police renseignent que ces malfrats qui ont eu comme mission d'empêcher les retours des déplacés dans leurs villages respectifs sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs, meurtre, vol à main armée et mutilation des cadavres. Le général Kanold Kamana est le numéro 1 de la police du Kwilu.
Ça c'est la troisième vague des assaillants que nous venons de récupérer et d'ici là je crois que les déplacés internes rentrent déjà dans le secteur de la Wamba et partout où nous trouverons les assaillants, nous allons le récupérer. Nous avons les moyens pour pacifier ce secteur et nous poursuivrons ces assaillants jusque dans leur dernier retranchement.
Satisfait, le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, félicite les services de la police pour ces jolis coups de filet. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans l'actualité, il y a également sur Radio Okapi le lancement ce jeudi à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, de la première phase de la vaccination contre la poliomyélite. Plus de 320 000 enfants de moins de 5 ans sont attendus à cette campagne de vaccination de porte à porte qui durera 3 jours. C'est le gouverneur intérimaire qui a lancé le coup d'envoi de cette campagne dans la commune de Mikelenge. Le compte-rendu à Kindu de Florence Kizalunga.
Selon le chef intérimaire de la division provinciale de la santé, plusieurs enquêtes ont démontré que le Maniema fait toujours partie des provinces qui ont un grand nombre d'enfants zéro dose sous-vaccinés pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la faible application des stratégies pour atteindre toutes les cibles. Docteur Anakle Kianga.
Nous avons l'obligation d'atteindre chaque enfant cible par la combinaison de plusieurs stratégies, notamment porte à porte, fixe, avancée mobile et autres spécifiques. Pendant 3 jours, nul n'ignore que la maladie est tellement contagieuse, si bien qu'un enfant atteint de polio peut transmettre la dite maladie entre 200 et 300 enfants.
Les partenaires techniques financiers appellent à la mobilisation de tous pour la réussite de cette activité. Blaise Bazier est de l'UNICEF.
Nous sollicitons l'engagement de tous. Aux acteurs de terrain ici, je voudrais vous encourager à donner le meilleur de vous-même pendant cette phase pour qu'aucun enfant, quel que soit son lieu de résidence, sa culture, son appartenance ou sa classe sociale ne soit oubliée.
Signalons que cette campagne sera aussi l'occasion de récupérer tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés au cours des vaccinations des routines de lettres. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Quelques semaines après le Maroc, c'est la Tunisie qui est aujourd'hui jeudi dans le viseur des députés européens. Ils ont adopté ce jeudi matin à une large majorité une résolution condamnant les dérives du pays en matière de liberté publique et de répression contre la presse et les syndicats. 64 ressortissants burkinabés rapatriés de la Tunisie, d'où ils fuyaient des violences visant des Africains subsahariens depuis le discours prononcé par le président Kais Saied, sont arrivés hier soir à Ouagadougou à bord d'un avion affrété par le gouvernement du Burkina Faso. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Et puis, trois Marocains affiliés au groupe djihadiste État islamique soupçonnés d'avoir assassiné un policier dont le corps calciné a été retrouvé au début du mois de mars près de Casablanca ont été arrêtés hier après-midi selon la police.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef d'antenne du PDDRCS dans la région de Beni au Nord Kivu, Omar Kavota, parle des activités préparatoires au désarmement des miliciens qui ont adhéré récemment au processus de paix. Il s'agit des Maïmaï basés à Kalunguta, une zone en proie aux attaques des rebelles ougandais de l'EDF. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Une cacophonie s'est fait observer dans la région de Bachou et la notabilité parce que les programmes de désarmement devaient déjà amorcer les pas un peu rapidement pour que la situation soit décantée. À votre niveau, qu'est-ce que vous en dites?
Nous disons que le PDDRCS s'emploie pour lasser dans les jours à venir les désarmements et la démobilisation. Parce que le coordonnateur provincial du programme est passé à Beni pour valider le site qui devra servir de désarmement et le site qui devra servir de démobilisation. Il est donc question que soient harmonisées des questions d'ordre de modalités pratiques afin que nous puissions communiquer formellement ces sites et appeler tous les détenteurs illégaux d'armes, membres des groupes armés, à pouvoir se rendre. Nous voulons donc appeler la population et les membres des groupes armés à avoir leur mal à patience parce que au niveau du PDDRCS, la question est réellement prise à charge de manière que tout se passe normalement. Il faut préparer les sites de désarmement, donc mettre les dispositifs d'accueil et tout dispositif de sécurité, de même pour les sites de désarmement, de démobilisation. Et nous croyons qu'au cours de ce mois de mars, on devra faire en sorte que cela soit opérationnel. Nous disons que c'est anormal qu'on considère que des groupes armés puissent assurer la sécurité des populations. C'est pourquoi dans la chefferie de Bachou ou encore dans les groupements de Bouliki à secteur de Rouenzori, même s'il y a des groupes armés qui attendent, s'il y a des menaces d'ordre sécuritaire, au niveau du programme, nous ne pouvons pas souhaiter qu'on attende des ripostes à ces menaces-là de la part des groupes armés. Nous voudrions que tous les groupes armés qui sont éparpillés ça et là à travers les territoires soient candidats au processus de désarmement et de démobilisation. Et lorsque l'ego sera lassé, nous voudrions le voir tous venir adhérer massivement au programme et nous en appelons donc les membres de la communauté à pouvoir sensibiliser les uns et les autres à ne pas se montrer réticents face à ces programmes.
Et sur le terrain, comment évolue la prise de contact entre les animateurs et les autorités locales?
Alors, au niveau de Beni, ville et territoire, nous sommes en contact permanent avec le responsable de l'armée, les autorités politico-administratives, même les autorités coutumières, pour que chacun active à son niveau la machine, en sorte que nous puissions agir en synergie de manière à faire en sorte que le PDDRCS soit une réussite. Et nous pouvons nous féliciter parce que depuis, nous sommes en train de travailler main dans la main avec les commandants secteur opérationnel dans cette zone, l'administrateur militaire du territoire de Beni et le maire de la ville de Beni, mais aussi avec tous leurs membres du comité de sécurité, de manière à ce que nous puissions œuvrer en faveur de la réussite du programme et se lever le plus ardent que les autorités et les membres de la communauté s'approprient ces programmes dont l'approche est communautaire.
On comprend que les choses évoluent déjà bien. Votre message pour la population?
Notre message, c'est d'appeler les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les membres de la communauté d'aller rassembler les autorités coutumières à sensibiliser les groupes armés qui sont encore actifs dans la zone à pouvoir adhérer au processus de désarmement et de démobilisation. Le PDDRCS, c'est leur programme et c'est à travers une appropriation effective de ces programmes par toutes les composantes, toutes les couches que nous pouvons réussir. Nous pensons que la paix et la sécurité dépendent de la manière dont chacun de nous va s'approprier le PDDRCS et nous pensons que l'heure est arrivée. Lorsque nous allons formellement appeler le groupe à se rendre au site de désarmement, nous voudrions qu'ils viennent nombreux. Lorsque nous allons commencer la démobilisation et même la réinsertion avec la communauté, nous voudrions que réellement tous nous puissions, chacun puisse mettre la main à la pâte de manière à réussir et faire en sorte que ces programmes puissent être les saluts au bénéfice de la paix et de la sécurité de notre zone.
Monsieur Omar Kavota, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef d'antenne du PDDRCS dans la région de Beni au Nord Kivu. Omar Kavota a été interviewé par Marc Marofimbo. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Je remercie sincèrement Pélé Kipelamondo qui m'a accompagné.